Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Le Club de Tamani.
Tous les vendredis à 18h15.
Vendredi 1er novembre 2024, merci d'être au rendez-vous de la culture sur Studio Tamani. Le Club de Tamani est l'émission qui vous fait découvrir chaque semaine un aspect de la culture malienne. Les guitaristes, le batteur, le pianiste, joueur de tam-tam, djembé, kora ou encore goni, le chanteur et même les choristes parfois se retrouvent au chômage à cause des avancées technologiques qui permettent de créer des mélodies ou encore des beats sans le concours des professionnels. La révolution technologique a-t-elle handicapé l'industrie de la musique? Les acteurs ont-ils trouvé des alternatives pour continuer à rentabiliser leur art? Les politiques publiques protègent-elles les créations artistiques? À quoi les orchestres ressemblent-ils en ce 21e siècle? Notre convive ce soir, M. Abdoulaye Diombana, directeur du Palais de la Culture Amadou Ampatiba et directeur de la troupe régionale de Tombouctou lors des biennales de 2008 et 2010, nous donnera les réponses. Nos rubriques habituelles seront évidemment au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Adamon, la plus belle.
Bonsoir Lala, l'ambianceuse on va dire. Hein?
Ça commence fort dis donc.
On va gâter le coin comme on le dit.
Ah ok, ça je ne te fais pas dire. Tu as raison, on va mettre de la bonne ambiance, un impératif du club de Tamani.
Et pour la première sélection musicale, nous allons écouter Safi Diabaté dans Zone Interdite.
Dis-moi, comment va ta zone interdite?
Là, là.
Alors, Zone Interdite, une chanson signée Safi Diabaté à l'instant sur les platines de Mamadou Ouattara, sortie en 2019. Je viens à mon esquissé des pas de danse là. N'est-ce son nom.
Tout le monde a bougé ici. Hein?
D'accord.
Alors là, après ce premier délice, nous partons avec la revue de la presse.
La revue de la presse.
La revue de la presse au club ce soir, c'est avec la sublime Assetou Kanté. Assetou Kanté, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir Adama ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Alors, de quoi ont parlé les confrères cette semaine?
Les préparatifs de la rentrée scolaire, l'enlèvement du surveillant de la prison centrale d'Aouda Konaté et la visite de Moussa Mara en France sont entre autres sujets abordés par la presse malienne.
Commençons par la rentrée scolaire 2024-2025.
Dans sa parution du lundi 28 octobre 2024, le quotidien L'Essor a fait le point de la visite de la délégation ministérielle dans certains établissements scolaires de Bamako. Selon le journal, à la cité scolaire Ifa Bako de Sébénikoro, des salles de classe sont en bon état, même si les eaux de pluie stagnent encore. Rentrée scolaire 2024-2025, la date du 4 novembre maintenue, titre L'Indépendant. Dans les colonnes de ce quotidien privé, on peut lire l'assurance donnée par le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadouci Savané. À la date du 28 octobre dernier, la situation sur l'ensemble du territoire national se caractérisait par la libération de 103 écoles sur 126 occupées. S'agissant des écoles libérées des eaux, elles s'élèvent à 191 sur 187, a indiqué le ministre. Quant à l'indicateur du renouveau, il rappelle plutôt la situation météorologique en rappelant que les pluies continuent. Ainsi, à sa une, le journal écrit « Alerte météorologique au Mali ». Mali Météo prévoit des risques d'inondation jusqu'au 3 novembre dans certaines localités.
Et à cet tour, l'enlèvement du surveillant de la prison centrale d'Aouda Konaté a également fait le gros titre.
Tout à fait, Lala. L'enlèvement du secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison, le commandant d'Aouda Konaté, a fait la une des journaux maliens. Infomatin s'apesantit sur les inquiétudes du comité de crise de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Le comité de crise a déploré dans son communiqué repris par le journal le fait que le commandant reste introuvable. L'Indépendant de son côté souligne les inquiétudes du président de la CNDH sur les disparitions forcées et enlèvements. Le Républicain met en exergue l'audio viral attribué au commandant d'Aouda Konaté et l'ouverture d'une enquête par le procureur anti-cybercriminalité. Dans sa déclaration, le procureur souligne la gravité des propos tenus dans l'audio en question. Ce message représente une atteinte directe au crédit de l'État en propageant des accusations diffamatoires et faussement attribuées à des autorités publiques, a repris le Bi hebdomadaire.
À c'est tout, nous terminons par la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara en France.
Oui, Adama, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a failli être agressé par une foule en colère en France alors qu'il tenait un meeting. Moussa Mara, l'opposant malien à Paris, exfiltré de justesse par les forces de l'ordre françaises, a titré à la une Le Républicain. Le journal poursuit que Moussa Mara s'est présenté comme un leader politique impliqué dans la quête du pouvoir et dans l'amélioration du sort de ses compatriotes. Le quotidien L'Indépendant renchérit en reprenant cette confidence de Ibrahima, un habitant du foyer cité par Le Parisien, qui dit que ce n'était pas une bonne idée d'aller au foyer. C'est tout pour cette revue de presse.
Merci beaucoup la belle Assetou Kanté et à tout à l'heure pour la version en langue nationale Bamanankan. Place à présent à la rubrique Coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
Pour cette rubrique, nous recevons Fatoumata Kodjo comme toutes les semaines. Kodjo, bonsoir.
Bonsoir Adama, bonsoir Lala et à tous nos auditeurs.
Alors, Miss Hightech, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses de l'info ce soir?
Ce soir, Lala, nous allons parler des images sensibles.
Ah bon? Mais c'est quoi déjà une image sensible?
Une image sensible, c'est une image susceptible de heurter la sensibilité des téléspectateurs, des lecteurs, des abonnés, s'agissant des médias. Mais pour en savoir davantage, nous allons écouter Aramata Dia, journaliste, membre de la Haute Autorité de la Communication et consultante en communication. Un entretien réalisé avec Mamadou Ag-Irissa.
Une image sensible est toute sorte de représentation qui est contraire aux bonnes lettres et qui est aussi contraire à la protection de l'enfance, des femmes et de toutes les catégories qui peuvent être vulnérables. Pour illustrer, je vous donne un exemple. Quelqu'un peut, par exemple, un enfant qui a fait un petit lacin, qui a volé quelque chose, pour illustrer l'image de ce vol, mettre la photo de l'enfant. Ça, c'est très compromettant pour son avenir. Il y a des gens aussi qui mettent des scènes de nous. Par exemple, ils vont voir des gens qui sont en train, qui sont assis, ils profitent d'une inattention pour prendre des scènes. Tout ça, ce sont des scènes, vraiment des images sensibles. Par image sensible aussi, on peut parler de la violence. Il y a quelqu'un qui a été agressé, on montre le sang partout, ou bien il y a des soldats qui sont morts, on montre les images, ou bien il y a des terroristes ou des bandits qui sont arrêtés, on montre des brimades, ou bien on les montre sous vraiment. Tout ça, ce sont des images sensibles qui peuvent avoir des répercussions importantes sur le psychisme des gens. C'est en cela qu'on parle d'image sensible. Une autre illustration, par exemple, une femme qui est violemment battue par son mari, quelqu'un peut être indigné, montrer l'image de cette bastonnade, sans se rendre compte qu'en plus que pour la femme d'avoir été agressée, on la donne en pâture comme ça, et ça peut être l'objet vraiment de brimades ensuite. Donc tout ça, il faut être extrêmement vigilant et vraiment montrer des images qui ne sont pas préjudiciables, non seulement pour l'avenir, pour l'avenir des personnes mises en cause, et aussi pour les bonnes mères, et aussi qui ne sont pas dangereuses pour le psychisme en termes de violence.
Que disent les textes par rapport à la diffusion de telles images?
Le code d'éthique de la déontologie des journalistes maliens condamne la diffusion d'images à but sensationnel. L'image violente est contraire aux bonnes mœurs dans le but de provoquer du sensationnel. Si des images sont parlantes et qu'elles élisent une citation, on peut prendre les précautions, bander les yeux, masquer certaines parties floutées si l'image est nécessaire. Mais dans le but seulement de faire du sensationnel, le code d'éthique condamne clairement cela. Et moi, je dis, je ne suis pas juriste, mais je suis plus sensible au code d'éthique, parce que le code d'éthique, c'est la référence absolue pour tous les journalistes. Le journaliste peut ne pas se soumettre à la loi s'il estime qu'il y a vraiment des éléments qui vont contre le droit à l'information, mais tout journaliste doit s'astreindre à respecter le code d'éthique et de la déontologie.
Ça, c'est quand même l'encadrement du travail du journalisme ou des journalistes. Maintenant, qu'en est-il lorsque c'est une personne qui n'est pas journaliste, parce qu'il arrive quand même que des gens se permettent, comme vous l'avez si bien dit, de prendre des images et les mettre sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ce ne sont pas des gens régis par le code d'éthique des journalistes ni rien. Est-ce que dans ces cas-là, est-ce que ces gens-là encourent des sanctions?
Absolument, parce que là, en ce moment, c'est la diffusion d'images choquantes. Et toute personne qui met des images à la disposition du public, qu'il soit journaliste ou pas, doit répondre de ses actes. Ça, c'est la cybercriminalité qui va se charger en ce moment de gérer ce problème.
Voilà donc l'essentiel qu'on pouvait retenir concernant les images sensibles.
Merci Fatoumata Kodjo, et on va se dire à la semaine prochaine.
Inch'Allah.
Alors, nous faisons de la place à présent pour notre invité culture.
L'invité culture.
Celui que nous recevons ce soir est un homme de culture accompli, actuel directeur du Palais de la Culture.
Oui, Adamo, Abdoulaye Diombana, car c'est de lui qu'il s'agit, a eu à encadrer l'ensemble instrumental de Tombouctou lors des biennales de 2008 et 2010. Il nous fait l'honneur d'accepter notre invitation ce soir. Bonsoir, Monsieur Diombana.
Bonsoir, chère belle dame.
Alors, Monsieur Diombana, d'entrée de jeu, c'est quoi un orchestre pour nous et pour les auditeurs?
Ok, et merci pour cette question, parce que c'est important de le signaler. Il y a groupe, il y a orchestre. L'orchestration, c'est au niveau des instruments, surtout des instruments modernes. Quand on prend les instruments traditionnels, on parle de groupe traditionnel, ainsi de suite. Nos instruments traditionnels, c'est goni, c'est bara, c'est balani, et ainsi de suite. Mais quand on parle de l'orchestration, il s'agit des instruments modernes, tels que la batterie, et les saxos, la guitare, ainsi de suite. Et l'orchestration demande certaines règles d'arrangement musical. C'est pourquoi nos orchestres aujourd'hui, il n'en a pas assez, il n'en a plus. Parce que les orchestres, il faut des sections. Qui veut dire quoi? Section percussion, ça c'est les tambours et autres, la batterie. Section cordophone, ça c'est les guitares et autres. Section et vent. Hein, section 20, les ça flûtes. C'est les flûtes, tout. Donc, c'est l'ensemble de ces choses-là qui forment un orchestre. Aujourd'hui, on a par exemple l'Orchestre national les Badema, qui se débrouillent, mais qui sont au Palais de la Culture, mais qui n'ont pas de section de vent, par exemple. Voilà, et c'est ce qui faisait la beauté de nos orchestres depuis les indépendances, les super bitons, les kanaga et autres là. Tout était sur les vents là, voilà.
D'accord. De façon très brève, quels sont les métiers de la musique?
Les métiers de la musique, bon, la musique d'abord, on dit métier d'art, on parle de musique comme métier d'abord, mais tout ça est défini dans le statut des artistes. Et c'est le statut des artistes qui définit les métiers liés à la musique. Je ne vais pas me permettre d'en citer ici, sans faire référence à ces statuts-là que le département de la culture a mis en place. Donc, le métier de la musique, il y a d'abord les agents qui font tourner les musiciens. Il y a les managers qui sont liés à ça. Il y a les instrumentistes et il y a les chanteurs. Donc, voici un peu en gros ce que je peux dire par rapport au métier lié à la musique.
Voilà. D'accord.
D'accord. Monsieur Diombana, comment et pourquoi avez-vous embrassé le domaine de la culture?
Et cette question me fait tellement rire et me ravit. Je suis né dans ça. J'ai grandi dans ça. J'évolue aujourd'hui dans ça. Et j'espère mourir dans ça.
Ah ouais.
Ça veut dire quoi? Je suis né d'une famille artiste. Mon père, père à son âme, Ibrahima Diomana dit Barbu, est sociétaire du Super Biton National. Bakar Dian, c'est lui. Damonzon, c'est lui. Donc, après.
Ça s'applaudit, il y a
d'abord. Voilà.
Ça
s'applaudit. Après, il est venu comme professeur de guitare à l'INA. Tous ceux qui ont passé par l'INA le connaissent, les Baba Salah, les Asakida, tous le connaissent parce qu'il les a formés. Donc j'ai ça dans le sang. Réellement, je n'ai pas fait d'études musicales, mais j'ai appris la musique dans la rue. Certains pensent que j'ai appris la musique à l'INA. Non, non, non. Moi, j'ai appris la musique et dans la famille. Sinon, j'ai fait l'école supérieure, mais je joue la guitare, je suis bassiste et je jouais même dans l'orchestre de Tombouctou. J'ai beaucoup joué dans l'orchestre de Tombouctou. J'animais les baptêmes, les mariages et autres là, dans les temps. Mais maintenant, je m'exerce seulement.
D'accord. Voilà. Alors, comment va aujourd'hui l'industrie de la musique malienne? Est-elle à l'agonie ou se maintient-elle encore?
Et ça, c'est en deux vases. Et sur le plan, l'industrie musicale, sur le plan économique, est à l'agonie. Mais sur le plan technique, se maintient. Et plan économique, ça veut dire quoi? C'est les difficultés du moment dans le monde entier et au Mali aujourd'hui, surtout avec l'avènement de Covid-19, les musiciens ont souffert et continuent à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Donc l'économie est dans l'agonie dans ce sens-là. Mais les créations musicales nous permettent de jouer pour dire que la musique malienne se maintient. La preuve, Sériki Diabaté, la preuve, Salif Keita, la preuve, Oum Sangaré.
Absolument.
Et dans le monde entier. Donc, techniquement, par rapport aux créations, et notre musique n'est pas dans l'agonie. Mais sur l'industrie musicale qui est centrée sur l'économie, en ce moment, on peut parler d'agonie.
Ça ne rapporte pas beaucoup.
Voilà, ça ne rapporte pas assez maintenant.
D'accord.
Ouais.
D'accord. Lala, on va dire merci à M. Diombana pour ses premières réponses et nous allons juste marquer un tampon musical.
Nous allons nous dégourdir un peu les jambes et cette fois, nous allons écouter ce groupe de musiciens qui a l'art de mettre en musique le patrimoine national, l'ensemble instrumental du Mali dans Mousso.
Oh,
L'ensemble instrumental du Mali qui chante les femmes du monde. Monsieur Diombana, l'ensemble instrumental a été créé en quelle année?
L'ensemble instrumental, sa création, c'est à partir de 1962. C'est lorsque notre président Modibo Keïta s'est rendu en Guinée. Il a été accueilli par un groupe de danse et de musique de ce genre. Et revenu au Mali, il a fait appel à certains artistes pour leur demander de former un groupe. Mais ce groupe, c'était d'abord des groupes de danse et de musique, mais avec nos instruments traditionnels. Donc avant que ça ne soit disloqué, c'est aujourd'hui ce qui est le ballet malien et l'ensemble instrumental national. Voici un peu le début, comment ça a créé. Et ça a été très difficile parce que nos musiciens prenaient référence sur la musique européenne, américaine. Donc il fallait adapter notre musique avec nos instruments traditionnels. C'est ce qui s'est passé. Ils ont fait recourir au djanjo, au dougwa et les musiques des champestres pour arriver à créer. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de l'ensemble instrumental.
Voilà. Effectivement. Ouais.
D'accord. Alors, si vous venez de nous capter, chers auditeurs, sachez que vous êtes à l'écoute de Studio Tamani sur l'ensemble de nos radios partenaires et vous écoutez l'émission Le Club des Tamani, l'émission culture sur Studio Tamani. Alors, est-ce qu'il y a des textes en vigueur, M. Diombana, au Mali, qui protègent les créations artistiques?
Oui, une création artistique, d'abord, est création lorsqu'elle est mise à la disposition du droit d'auteur. Quand vous créez un texte, s'il n'est pas au droit d'auteur, inscrit au droit d'auteur, cela ne veut pas dire que c'est pour toi. Toute personne peut l'utiliser comme il veut. Donc c'est à partir de la création qu'il faudra l'inscrire au droit d'auteur. En ce moment, le texte appartient. On parlera de création personnelle en ce moment. Mais il y a des créations qui sont des patrimoines, telles que les œuvres de la Biennale. C'est les créations collectives, c'est les créations des régions, des communes, ainsi de suite. Ça, c'est le patrimoine malien et qui ne font pas office de droit d'auteur. Parce que pour une seule chanson, vous allez trouver qu'il y a une vingtaine ou trentaine de personnes qui ont contribué à l'améliorer. Donc la création, pour que ça soit pour toi, il faut que ça soit inscrit à votre nom au bureau malien droit d'auteur.
Mais ceci ne pénalise-t-il pas les artistes? Parce que certains d'entre eux disent que voilà, ce sont des procédures qui durent longtemps, qui coûtent cher. Est-ce que cela ne les décourage pas un peu aussi?
Et je ne pense pas que ça soit le cas, parce qu'il faudra bénéficier de ta création, qui est quoi? Le droit d'auteur, là, c'est pour protéger d'abord ton œuvre. Une deuxième partie, c'est pour avoir des droits là-dessus, pécuniers. Et chaque année, quand c'est utilisé, vous allez avoir de l'argent là-dessus. Et moi, je pense que c'est à l'avantage de l'artiste que chaque année, il ait quelque chose par rapport au droit. C'est vrai, le droit malien est un peu dérisoire, mais au moins, ça te permet d'avoir quelques prix pendant quelques mois, des prix de condiments et autres. Donc, voilà.
Ok, mais comment aujourd'hui les artistes maliens gèrent-ils les impacts négatifs des technologies sur leur métier?
Bon, c'est comme dans tous les domaines. Je sais que quand vous prenez aujourd'hui à Radio Tamani et à quelques sujets avec des vidéomans qui font n'importe quoi au nom des radios, qu'ils m'excusent, hein, ces vidéomans. Et d'autres personnes sur les réseaux qui font autre chose au nom ou bien à la manière de certaines radios ou télévisions, ça fait mal parce que c'est pas encadré. C'est la même chose qui se passe dans le domaine musical aujourd'hui. On a discuté de quelque chose tout de suite avec un ordinateur, un clavier piano, et on fait un studio aujourd'hui. Or, quand vous voulez une qualité sonore, parce que les qualités sonores sont mesurées, hein, les techniciens sont derrière, ils savent, sont mesurées. Quand vous cherchez une qualité sonore comme ça, ce n'est pas avec un ordinateur que vous pouvez l'avoir. Quand vous voulez une qualité musicale, ce n'est pas un seul instrument qui peut te donner cette qualité musicale. Moi, je donne un exemple, je le dis aux joueurs de kora ou de ngoni qui mettent des pédales autour en changeant le son naturel de leur goni ou de leur... C'est ça notre identité. Ce son de goni brut, ce son de kora brut, c'est ça notre identité. Donc, quelle qu'en soit l'évolution, c'est vrai, l'évolution permet d'être rapide, mais ça ne construit pas. Ça ne te donne pas la qualité que vous voulez, parce que la musique adoucit le cœur, la musique fait ceci, cela. C'est quand c'est la qualité. Mais vous prenez aujourd'hui, et je finis rapidement, les DJ qui prennent un morceau qui doit aller avec un temps simple, mais ils ont des applications qui te mettent pour un temps simple comme ça, ils te mettent un temps très rapide. Donc pour faire danser ceux qui l'écoutent, or notre musique en réalité, en gros, la musique malienne, c'est pour être écoutée, pas pour danser. Ça, la musique ivoirienne, c'est pour être dansée. Mais la musique congolaise, c'est pour être dansée. Mais la musique malienne est pour être écoutée avec sa famille, avec sa femme, avec son entourage, voilà.
Du bon rythme en tout cas.
Voilà.
On a la preuve avec les Salif, les Mangalas, les Ali Farka.
Les Ali Farka Touré et Fethou Mani.
Djabaté également.
De nous quitter.
Oui.
Ok, Lala, une question à M. Diombana. La rentabilité d'une musique faite en studio, en playback, on va dire, ou faire en live, elle est comment la rentabilité?
La rentabilité financière ou bien quelle rentabilité?
Financière surtout.
Merci pour ça. Cette rentabilité dépend du consommateur. Hein? Le consommateur, parce que la musique enregistrée en live coûte plus cher que la musique enregistrée avec un seul instrument, comme je vous ai dit dans les studios, avec un seul ordinateur. Sa création coûte très cher avec beaucoup de personnes. Donc, quand on calcule depuis le départ, plus vous dépensez plus que vous ne gagnez. C'est pourquoi l'autre tendance a pris le pas, parce que les gens sont pauvres, ne peuvent pas investir plus d'argent. Ce qui est plus facile à faire, la facilité, on va vers ça. Mais tôt ou tard, si vous voulez que ta musique vive, si vous voulez que la musique vive, il faut aller avec cette musique en live. C'est ce qui vit. Écoutez les musiques bien enregistrées d'Ali Farka. Écoutez les musiques bien enregistrées de Salif Keita. Dans 100 ans, on pense que c'est la musique qui a été créée il y a un mois. Mais prenez les musiques avec les studios là qui font feu un mois, deux mois, parce qu'il n'y a aucun travail sur eux derrière. Ça ne peut pas vivre.
D'accord. Ouais. On sait également que les musiques des terroirs, ça continue toujours de passionner. Voilà, les musiques souvent qui ne sont même pas accompagnées par beaucoup d'instruments, juste peut-être une kora ou un goni, mais qui continuent à faire leur temps. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, certains artistes n'ont pas tenté une reconversion? Mais est-ce que c'est là aussi, cette situation aussi ne met pas à mal la culture malienne?
Reconversion dans quel sens? Parce qu'il y a les deux sens.
Oui, les instrumentistes, je veux dire.
Ok.
Voilà. un chanteur, on sait que voilà, lui, son domaine est bien précis, mais quelqu'un qui joue de la batterie, du gondi par exemple, ou de la kora, qui a du mal à vivre de son art, est-ce que cette situation-là n'amène pas les uns et les autres à virer ailleurs?
Effectivement, parce que c'est comme un boulot, c'est un travail. Si vous n'arrivez pas à gagner, vous cherchez autre chose. Mais il faut reconnaître que c'est le meilleur qui va toujours loin. Celui qui aime son travail peut aller loin. Et certains qui virent généralement, ils n'ont pas de conviction dans la musique. Ils n'ont pas travaillé la musique comme ça devait être travaillé. Moi, je le dis, je peux le dire. Aujourd'hui, nous avons des musiciens qui pensent qu'ils sont compétents, or ils ne l'ont pas.
Ils ne le sont pas.
Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas.
D'accord.
Ils sont beaucoup parce que il faut qu'on le dise. Il y a des jeunes aujourd'hui, entre eux, je le dis, hein, ils s'appellent maestro, maestro, qui veut dire maître, pour se donner des ailes. Or, il n'en a pas. Si ceci laisse là, on va dire que les musiciens ont lésé. Or, des grands musiciens sont en train de continuer, même un minimum, de vivre de leur art parce qu'ils ont cette conviction.
Cheikh Tidiane Seck, par exemple.
Cheikh Tidiane Seck, mon guerrier, mon papa, c'est un grand guerrier, une source dans laquelle nous-mêmes nous arrivons, même actuellement.
Est-ce qu'il y a, M. Diombana, une différence entre un son produit par l'intelligence artificielle et celui qui est fait par un groupe de musique?
Bon, comme vous l'avez dit, un son est égal à un son. Une œuvre est égale à une œuvre. Ce sont les mêmes œuvres. Et quand on dit œuvre produite par intelligence artificielle, œuvre produite par un humain ou quelque chose comme ça, ça reste une œuvre. Mais c'est le consommateur qui juge ce qu'il consomme, vous et moi. C'est nous qui pouvons juger de la qualité. Mais quand il y a concert, et c'est très rare, il y a un seul groupe aujourd'hui dans le monde qui joue, et qui sont IA, qui jouent. Les gens, par curiosité, vont les voir. Et ça, c'est par curiosité. Mais à la longue, cette curiosité va tomber, quoi. Et ça va revenir à la live. Quoi qu'on fasse. Même à un moment, le Mali avait laissé live là, mais aujourd'hui, on est en train de venir là-dessus. Prends le cas des rappeurs aujourd'hui, qui essaient de trouver leur chemin par rapport au live, parce que je travaille beaucoup avec l'artiste Young BG, c'est mon produit.
D'accord.
Aujourd'hui, il a dit un jour, lors d'une émission, c'est quand il a commencé à faire le live qu'il s'est rendu compte qu'il ne faisait pas de la musique. Il était talentueux, il faisait beaucoup de la musique, mais il y a des coins et recoins qu'on apprend avec les instruments et qui ne s'apprennent pas directement avec les claviers ou autres. Voilà.
D'accord. Vous avez aussi laissé entendre que les artistes, quand ils vont à l'extérieur pour des tournées internationales, ce sont des musiques en live qu'ils font. Oui. Mais, et pourtant ici, la plupart des concerts, c'est des playbacks.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui explique donc cette situation?
Et le premier cas des playbacks, c'est qu'ils savent pas faire le live. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est les moyens. Mais la majeure partie des playbacks, ça, c'est dans certains événements, quoi. Ils ne produisent pas les bagnards nécessaires. C'est-à-dire les instruments sur lesquels les artistes doivent jouer. Et il y a la question des prix aussi qui est là.
D'accord.
Quand vous jouez avec un groupe de 8 personnes, 10 personnes, le prix n'est pas la même chose que quelqu'un qui vient faire live. Tu peux te déplacer avec un prix de 100 000 francs pour aller faire un live. Toi et ton manager. Tu montes, tu donnes ton... Mais avec le live, tu te déplaces avec 8-10 personnes. Ça, c'est 500 000, 700 000.
Le premier cas, ça sera le playback dans ce cas.
C'est ça. C'est ce qui se passe. Ah, on n'a pas ton cachet, mais on peut te faire jouer par...
Un playback.
Bon, l'artiste aussi accepte parce qu'il n'a rien dans la poche. C'est un minimum qu'il va amener à la maison. Sinon, ça détruit l'artiste.
Voilà.
Ça détruit l'artiste. Parce que ta qualité vocale, il y a beaucoup de choses dans la musique que tu peux faire dans le live que tu ne fais pas en playback. En playback, tu respectes le son qui est là. Tu respectes.
Ça tue la création.
Ça tue l'initiative sur la scène, quoi.
D'accord.
Pour vous soutenir un peu dans ce que vous dites, il y a même des artistes, quand on les écoute en playback et quand ils chantent en live, on a l'impression de ne pas entendre la même personne.
C'est ça.
La voix même n'y est pas.
C'est parce que la machine les a aidés dans les studios.
On a modifié la tonalité
pour l'amener à la gamme normale.
D'accord. Et on ne saurait clore cet entretien sans vous permettre de dire un peu, parce que vous êtes le directeur du Palais de la Culture, Amadou Ampatiéba, quelles sont aujourd'hui les difficultés que votre structure rencontre?
Comme je l'ai dit, depuis Covid-19, le domaine de l'art et la culture souffre énormément. Le Palais de la Culture est dans ce sens-là. Surtout le personnel qui est à des mois, souvent sans chaleur, parce que c'est par les concerts, les activités que ceux-ci sont faits. Aujourd'hui, les artistes vivent difficilement et les concerts ne marchent pas parce que le pays même est dans une situation très très difficile. Donc, mais c'est la résilience du pays, c'est partout, c'est dans tout domaine. Donc nous espérons que notre pays sortira bientôt de ça parce que c'est déjà commencé pour que ces difficultés soient derrière nous. Sinon, réellement, on a beaucoup de difficultés.
D'accord. Merci beaucoup, M. Diombana, pour toutes ces précisions. Alors, Adamo, l'émission n'est pas encore finie. Vous restez avec nous.
Bien sûr, nous allons continuer maintenant avec la page sport.
L'actualité sportive au club de Tabani ce soir, ce sera avec Imrana Kilumeya. Imrana, bonsoir.
Bonsoir Lala et bonsoir à tous les restes du plateau. Ravi de vous retrouver.
Alors, qu'avons-nous au menu de l'actualité sportive aujourd'hui?
Nous allons évoquer les demi-finales du tournoi IFOA-A du football féminin avec la fin du tournoi des montées en première division et les éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations.
Alors, les demi-finales du tournoi IFOA-A se jouent aujourd'hui vendredi.
Et oui, le Mali affronte en ce moment la Gambie en seconde demi-finale au stade Latior de Kes. La rencontre a débuté à 18h. Le vainqueur de la rencontre croisera en finale le Sénégal, tombeur de la Guinée-Bissau de la première demi-finale jouée à 16h. Le vainqueur de la rencontre croisera en finale la Guinée-Bissau qui a battu le Sénégal en première demi-finale jouée à 16h. Il faut rappeler qu'en phase de groupe, les Aiglonais se sont imposés respectivement devant la Guinée-Bissau et la Sierra Leone 1-0. Les Cadémaliens ont dominé lors de la troisième rencontre leurs homologues de la Mauritanie 4-0. Les deux équipes qualifiées pour la finale joueront le prochain championnat d'Afrique de la catégorie en 2025.
Football féminin, les deux clubs promus en première division sont connus.
Et oui, il s'agit des Teria AC de Saint et les Tigresses de Kaye avec 3 victoires en autant de matchs. Teria AC a survolé son groupe. Les Sanoises ont dominé les Tigresses de Bougouni, le FC Tafing de Koulikoro et LAC. Teria AC s'est donc classé premier du tournoi avec 6 buts marqués et 0 encaissés. Quant aux Tigresses de Kaye, elles ont également remporté tous leurs matchs. Dans un groupe à 3, les Kayesiennes ont surclassé leurs sœurs des Badenia FC et de l'AS Commune 3. Dans cette compétition, les Tigresses de Kaye ont fait trembler 5 fois les filets de leurs adversaires et encaissé 2 buts.
Et Imrana, les Maliens qui pourront aller sur les chocs Burkina Faso-Sénégal au stade du 26 mars.
Tout à fait. Le 14 novembre prochain, les étalons du Burkina Faso recevront les Lions du Sénégal au stade du 26 mars de Bamako. Ce sera pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. À l'aller au stade Abdoulaye Wad de Yamna Diou, les deux équipes avaient partagé les points. Il faut rappeler que l'enjeu de cette rencontre est la première place du groupe. Les deux équipes étant déjà qualifié depuis la 4e journée.
Merci beaucoup Imrana Kilumaiga pour toutes ces informations sportives. Nous allons t'accompagner en musique, Adamo.
Avec Oumar Konaté qui chante Mali Songwe.
Of
Omar Konaté dans Mali Songoï, sorti en 2021. Nous retrouvons à Sito Konté pour la revue de presse en Bamanankan.
La revue de la presse.
Kante, inu la kokura.
Yara nu la kokura.
Aywa, ina fanya fo jamu kanda mne la chogomina. Ni ayi nyokombulu, doko kinki bari yako wala wala tu nukana. Kuna fundilo kumana mune kanko sebe.
Lala ture, kuna fundilo kumana minka odobe talike e kalanta labe unka. Ale ni kasobomba disurveyan Dauda Konate Aleka Jasoli ani Musa Maraye Tama Minke Fransi.
Aywa, sietu Kante, ama damne ni kalanta nye blabara uye.
Awo, lala kotidye esor ale koni kuna fundi seben kona la mimbora tenendo oktobru kalotle mwa anisheki insamba flani mwa nanina ale kwani kumana guvernema mawye tama mke kalanso kona la Bamako kakeni kuna fundi seben nye site skoler ifa bako la sebeni koro ayera kafoko kalanso klasi munube nunoko ulube la hale anyumana alna asoro la jiko nisikilenu ado kona la kalanta samba fla ani mwa nani ani samba flani mwa duru o kwani novembre kalotle nani o dati kwani tengura sugantira kudai endepana alebe titre oka aka kuna fundi gafe konala ayajira kafoko ministry de l'education docteur Amadou Sy Savane
ale kalanko ministry ko
docteur Amadou Sy Savane ale haklina sigi munke ale kumana oluka octobre kalotle mwa ani shekin temenela ayira kafo jamana fambela ko kalanso kemé ani mwa ani woro ko mogo tumbe olukonna la ayira ka foko bibina ka kalanso kemé ani kalanso saba mogo bora olukonna la jitumbe munun konna la ayira ka foko kalanso kemé ani bishegini wolonvla ayira ka foko kemé ani bishegini kelenji bora olukonna la ka keni ministri ka mawye indicateur de renouveau koni be haklina jigike meto mawye wale ya mnufo kada sanjiko na tokoka ayajira ka foko aka une aka kuna fundi seven konna la aya titreko mali meteo mau koni be ka jorona ko ke ji walangatalika alibi ka ko fobe katarase novembre kalot le sabama jamana fando konnala
kaso bomba surveillant na le Dauda Konate ale fana ka jasoli kuma fora kosobe
kosobe adama o ka jasoli kuma fora mali kuna fondi gafe o chama fe amba damne ni informate ale koni be kuma e comité de crise mbla la CDTM mau fe oluka jornako amba damne ni ale koni kuma na oka o comité reagira ka foko komanda Dauda Konate ka jasoli koni o make olusa kuna koe uka iwe gafe mimbo ukona lani kuna fundi sebe nisikina uka. Ende panda sende ya shi nyamogoba ye jorona kumunike mautunu nika ale kwa ni kumana ureka. Republike ale kwa ni mbeka kumaminka ureye kumaka munu bora ni utengulenu komanda Dauda Konate la ani sika sika li munu daele la procureur anti-cybercriminalite aye kumaka nunu juguyali fo min tegune no Dauda Konate la ko kumaka nunu te la halaye munu be ko kumaka nunu te la halaye nyumanye jamana ma kakeni kuna fundi gafenye
aywa asetu Kante ami dorokun kuna fonia nunu datuguni Musa Marana le ku premier ministre koroye alika tamala kata Fransi jamana ka
kosabe lala premier ministre koro Musa Mara wafaria wale kwani kumena takale secret jama dimine do fe Fransi sikonna la adumina tumeka nyon la jere doke yenno Musa Mara ale koni ka dugura ka bo Fransi finitiki la ka ofe republicain be titre oreka ka keni kuna fundi sebenye Musa Mara koni ne ale politiki ko manyama baye ale ajira ka fo ko anana fanga nyini na mimbe se ka to maliya munube yenno uluka la hale o be se ka la nye to ya mina ka keni kuna fundi gafe lende panaye ale koni be Ibrahima ni ale ye foyer madoye ami o mi ko fora Fransi kuna fundi gafe do fe no be wele ko le Parisien ale koni ajira ka fo ko ni hakil nay koni kunte nyuma ye kataka foyer la nene be dans sigi nga revue de la presse la
initio ko sobe asitu konté kani kuna fonia nu bela jelina amba fo kambe dokumere ni alamanga jonya jona. Alors peu à peu le navire club de Tamani arrive à bon port. Nous allons donner la parole à notre invité pour conclure s'il a un message à faire passer.
Merci pour cela. J'aimerais ici d'abord, on vient de perdre à 4h du matin un guitariste de l'orchestre régional de Tombouctou, Elhadj Malmadan, que son âme repose en paix parce qu'il a fait pour toutes les biennales depuis les années 78 jusqu'à aujourd'hui. Paix à son âme. Au-delà de ça, et dire à nos auditeurs, tout ce qu'on a comme richesse, c'est l'art et la culture. Votre mission va dans ce sens-là, c'est de se joindre à moi pour prier, pour que vous continuiez à faire ce travail-là, pour valoriser, pour rappeler certains aspects de notre art. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé des impacts, des conséquences de certaines choses qui vont contribuer effectivement à promouvoir notre domaine, à promouvoir la musique. Donc, priez pour que vos émissions aillent très loin et que vous-même, et vous soyez bénéfique par rapport à ce que, tout ce que vous voulez dans ce sens. Que notre pays ait cette paix. Et dans la paix, l'art pourra aller où il veut.
D'accord. Voilà. Et c'est sur ces mots que se referment les portes du club de Tamani de ce vendredi. Merci d'avoir été de la partie. Grand merci à toute l'équipe de réalisation, à la coordination Sekou Gadjigo. De l'autre côté de la baie vitrée, Mamadou Ouattara a assuré la mise en onde. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain sur les mêmes fréquences et à la même heure autour, bien sûr, d'un autre sujet culture. Bon week-end à tous.